C'est toi qui as les clés ?
Ah oui, elles sont là.
Design, cinéma, scénographie, peinture, architecture, La Cabane, l'émission où l'on parle d'art sans complexe.
Il y a un moment dans la vie où l'on se retrouve à la croisée des chemins. Des choix qu'on a faits à ce moment peuvent déterminer tout le restant de notre vie. Bien sûr, face à l'inconnu, la plupart d'entre nous préfèrent faire demi-tour. Quoi de plus mystérieux pour commencer cette émission de radio qu'une citation d'un gros auteur, n'est-ce pas ? Que vous connaissez tous, n'est-ce pas ? Et mais, ou si ça ne vous évoque rien, c'est sûrement que vous n'avez pas regardé toutes les saisons des Frères Scott, les 9 saisons, et 187 épisodes. Quel dommage. Mais cette citation, au-delà de cette référence triviale, nous impose un questionnement. Qu'est-ce qui nous guide ? Qu'est-ce qui nous fait prendre tel ou tel sentier ? Peut-être jamais exploré ? Qu'est-ce qui nous a fait appuyer sur ce bouton de radio ou cliquer sur cette souris d'ordinateur pour écouter ce podcast sur prune.net ? Rien ? Si. Le choix. Ne vous détrompez pas, vous n'êtes pas tombé dans une zone entre chien et loup, qui est cette quatrième dimension. Vous êtes bien sur Prune 92 FM dans La Cabane, l'émission qui parle d'art sans complexe. Je suis Harold et je suis toujours et encore accompagné d'Emilie.
Salut Harold.
Salut Emilie. Comment t'as aimé cette intro ?
J'étais pas prête. Pour être honnête, j'étais vraiment
tu
pas prête.
Tu m'étonnes. Alors évidemment, cette intro est particulière parce que cette émission est particulière. La thématique de cette émission, normalement, est une émission artistique et culturelle où on parle entre amis sans complexe.
Tout à fait.
Mais aujourd'hui, notre invité n'est pas un praticien artistique ou un artistique. Notre invité s'appelle Antonin. Bonjour Antonin.
Salut Harold.
Comment ça va ?
Ça va tranquille.
Est-ce que tu es stressé ?
Ouais, c'est ma première fois en direct sur France Inter. C'est un peu de pression.
Alors nous sommes pas sur...
alors on n'est pas sur France
Inter. Alors on est sur Prune 92 FM.
C'est encore plus stressant.
Et qui plus est, on n'est pas en direct non plus.
Ça va là.
Ouais, donc rien ne va. Et tu nous disais dans les off que du coup, c'était pas ta première radio. C'est pas la première fois que tu te trouves derrière un micro.
Ah ouais, oui, j'ai déjà été en direct sur France Inter.
Oui, c'est vrai.
Oui.
Dans quoi ?
Sur le jeu des 1000 euros.
Et t'as gagné ou pas ?
Non.
Non.
J'ai pas été sélectionné, j'ai fait les qualifs. Ah si,
comment ça se passe du coup ?
Bah, on était dans une grande salle des fêtes et... ils appellent des volontaires, ils nous mettent un petit peu en rondognon, ils nous posent des questions et puis voilà, ils nous qualifient comme ça. Donc en fait, maintenant que j'ai réfléchi, j'étais pas vraiment en direct puisque c'était les qualifs pour participer à l'émission.
En fait, je suis pas du tout passé.
Donc c'est ma première émission. En fait, ça y est, je suis stressé du coup.
T'avais des micros et tout, t'es dans une salle ou non,
ouais,
c'est
ouais.
Juste table et.
Non, ils avaient des micros et tout, mais du coup, en fait, ils enregistraient l'émission véritablement commençait une fois qu'ils avaient fait les qualifs quoi. Mais donc, en gros, une fois que moi et pas mal d'autres, on avait été éliminés, ils ont gardé ceux qui avaient gagné. Et puis là, ils ont commencé véritablement l'enregistrement. Donc, dans la salle des fêtes, c'était à Meynières-en-Bray, commune du 76.
Qu'on connaît tous, évidemment.
En Normandie, du coup.
Oui, Seine-Maritime, absolument.
Alors, il n'y a que moi qui ne connais pas. Mais... et donc, est-ce que tu pourrais dire... Vu que je t'ai présenté comme n'étant pas praticien artistique ou artistique, comment on pourrait te qualifier ? Est-ce qu'on a le droit de parler de ce que tu fais dans la vie ou pas ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Ouais, c'est vrai que c'est une question que je n'aime pas trop.
C'est pour ça que je te la pose.
Là, en ce moment, je suis principalement oisif, on va dire.
D'accord.
Donc, je ne sais pas si c'est une activité. Enfin, c'est une non-activité, mais peut-être c'est une activité.
C'est une activité comme une autre.
Ouais.
Et quel est ton rapport à l'art ou au moins à la culture ? Comment toi tu définirais ton rapport ?
Je pense que je suis assez appréciatif. Enfin, c'est quelque chose vers lequel je vais naturellement. Et j'ai aussi je suis peut-être presque un artiste frustré puisque j'aimerais créer sans jamais trop le faire. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui m'attire, qui m'intrigue, autour duquel je tourne, je pense, quotidiennement.
C'est pas une émission si particulière que ça,
non,
finalement. On aurait dû prendre quelqu'un qui aime pas du tout l'art. En fait.
C'est ça. Ça aurait été plus critique.
Mais du coup, quelle est ta consommation de l'art ?
Waouh, consommation, on dit ça.
Mm-hmm. On peut dire ça, oui.
Ouais, si, je suis d'accord avec Carole. Dit. Je pense
comment
qu'on
tu
peut consommer de l'art.
Oh, okay.
Enfin, ça le désacralise, quoi. Et
ouais,
c'est intéressant. Vrai. Et comment je consomme l'art ? Ben, je. Je lis beaucoup de livres téléchargés illégalement sur ma liseuse dans mon lit.
Voilà. Légalement. Non, mais t'as fourché, mais t'as
oui,
voulu
oui,
dire légalement.
Téléchargé mais... légalement, absolument. Ouais. Absolument. Et ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup.
Donc la littérature.
Ouais.
Et les romans, les bandes dessinées.
Ouais, alors romans en littérature, du coup, bandes dessinées aussi, que j'achète, du coup. Je les lis pas sur ma liseuse parce que c'est vraiment pas confortable. Beaucoup de musique aussi. Et puis, des jeux vidéo. Mais je pense que c'est tout.
Ce qui est déjà pas mal.
Oui, c'est déjà une bonne consommation. Les musées, peut-être aussi, quand c'était ouvert
à l'époque. Ouais, j'aimais bien aller au musée, mais c'était pas quelque chose que je faisais régulièrement. Il fallait toujours un peu que... Enfin, un peu comme le cinéma. J'aime bien. J'ai jamais regretté d'être allé au musée ou au cinéma, mais...
Ouais, c'est pas naturel. Quoi,
ouais,
finalement.
C'est ça. Et c'était un petit peu une démarche, quoi, à chaque fois.
Ok.
Et quand on parle de, enfin quand les gens non praticiens parlent d'art, ils peut-être qu'ils pensent à la peinture, au théâtre ou des choses comme ça. Toi, c'est des choses que tu consommes un peu ou pas du tout, ou t'as jamais, je sais pas, est-ce que t'es déjà allé à l'opéra ou ce genre de choses?
Si les, enfin oui, c'est les arts vraiment les arts classiques quoi. Mm. Je crois que c'est quelque chose que mes parents ont tenté vainement de m'inculquer en m'emmenant beaucoup au musée et aussi du coup à l'opéra, au théâtre, etc.
Tes parents t'ont emmené à l'opéra quand même.
Ouais.
Toi, Émilie,
non,
quand
moi,
t'étais petit,
ah non, on m'a pas emmené à l'opéra, mais même on m'a pas emmené au théâtre en fait, je crois même.
Au musée? Non. Au musée peut-être à les sorties scolaires ou des choses comme ça, mais.
Ouais, je sais pas, j'en ai pas souvenir. J'ai le souvenir d'avoir visité une espèce d'abbaye en ruine et d'être devant ces tas de pierres et qu'on me dise bah voilà.
Ça, c'est de l'art.
C'est la culture quoi, c'est notre histoire. Et j'étais là, ouais, c'est des tas de pierres.
C'est
quoi,
de là que tu viens.
Donc voilà, c'était c'est ça mon rapport à l'art avant. C'était non, très compliqué. Mais c'est fou hein, d'avoir été à l'opéra jeune. C'est bien en même temps.
Ouais, c'est
une chance. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir aimé l'opéra, mais c'est une chance d'être exposé à ça. En tout cas, ça, c'est sûr.
Et ça te permet d'avoir un point de vue différent pour les gens qui peuvent avoir une critique là-dessus sans jamais avoir vu d'opéra. En fait.
Oui, oui,
ou
c'est
d'avoir
vrai.
Vu à la télé ou comme ça, ce qui est complètement différent. Comme voir un concert dans une vidéo et voir un concert en vrai, en live.
Oui, ouais, c'est clair.
Et cette émission est née, celle-là, la septième, on est déjà à la septième émission, est née par un questionnement que je t'ai poussé à faire, Antonin. C'était il y a quelques jours, je t'ai demandé si tu avais une question à poser à un artiste ou une artiste, ça serait quoi? Et tu m'as dit...
Et oui, et je t'ai dit que ça pourrait être intéressant d'interroger l'artiste sur ce qui le motive au quotidien à exercer sa pratique. Et voilà, d'où vient cette petite flamme qui brûle en lui?
La thématique, c'est la thématique.
C'est notre jingle un peu à la Ardisson.
Oh, okay.
Quand tu dis thématique, eh ben, elle part direct. Mais elle fonctionne qu'une fois dans l'émission.
Donc, c'est super jingle.
C'est un super jingle.
Ça m'a surpris, mais c'est génial.
Alors, je te rassure, t'es pas le seul. À chaque fois, quand ça coupe les personnes, ils sont là « Oh, attends, je dois dire un truc, il faut que je fasse quelque chose ». Et donc oui, voilà, c'est ça. C'est en gros, qu'est-ce qui te motive à exercer ton métier, quoi, le métier artistique. Tu pourrais le définir comme ça ou alors d'une
oui,
d'une
alors
autre
ton métier, je trouve que c'est vraiment un peu enfermant. C'est pour ça que j'utilisais plutôt le mot pratique parce que en fait, une pratique artistique, c'est pas nécessairement un métier. T'en vis pas nécessairement et tu te professionnalises pas nécessairement non plus dans ta pratique, quoi. Donc justement, parce qu'un métier, qu'est-ce qui te motive à exercer ton métier? Bon, après, on peut aimer ça ou pas,
tout,
mais
hein.
Enfin, généralement, c'est que ça nous rapporte des sous et qu'on en vit et qu'on n'a pas trop le choix. Quoi. Alors qu'une pratique artistique, c'est différent.
C'est vrai. Et moi, je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, par rapport à cette question que tu as posée, j'ai été faire fouiner un peu les internets pour essayer de vous faire un extrait d'un panel par rapport à cette question d'exercer l'art. On écoute ça tout de suite.
Nous allons évoquer le statut d'artiste, le rôle des artistes et puis leurs conditions dans la société contemporaine.
En l'occurrence, on a plutôt tendance à attribuer le mot artiste à des plasticiens, à des peintres, des sculpteurs.
Moi, je suis un acteur, un comédien, mais je ne suis pas un artiste. Je fais mon boulot.
Peut-être que vous avez raté votre vie de ce côté-là parce que vous êtes un metteur en scène de gens qui ont réussi, mais vous êtes un artiste qui n'a pas su faire son chemin.
Oui, je suis pas un artiste frustré.
Un artiste raté, alors.
Je ne suis pas un artiste raté.
Ah bon?
Je suis un artiste manqué.
Okay.
Au sens freudien du terme. Mmh. C'est-à-dire, je ne suis pas passé à l'acte.
Oui.
Les artistes sont sauvages, sont cruels aussi. Je crois pas à la sensibilité des acteurs, je crois. Là. Au contraire, il y a une espèce de vision des choses comme ça qu'on reçoit. Je veux dire, enfin, le seul art que j'ai, c'est la liberté.
Aïe, dédi, à moi la vie d'artiste. On peut porter des gilets de soie, de gros diamants, parce qu'à tous les doigts. Aïe, dédi-dida, la vie est un gala. Et quand on est une célébrité, le monde est à nos pieds.
Qu'est-ce que c'est qu'être un artiste? Qu'est-ce qu'une œuvre d'art par rapport à une œuvre d'artisanat, par exemple?
J'admire le paysage. C'est un enchantement, ne trouvez-vous pas? Répondit Lou. Oh, fit Maître Hibou. Te voici artiste maintenant.
Je me suis jamais considéré comme un artiste.
T'as raison. Bon.
Mais tant mieux, les artistes sont tous gauchos. Ils votent à gauche. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils viennent là? Juste pour essayer de tirer quoi? Non, non. On n'a pas besoin d'artistes.
Hey. Qui est-ce que vous aimez comme artiste quand même, vous?
Personne. C'est tous des casse-couilles et des gauchos.
À moi la vie d'artiste. On peut t'entendre sonner midi tout en prenant son café au lit.
Un artiste, ça a des vrais trucs à dire. Ça brûle de l'intérieur, un artiste, ça saccage des chambres d'hôtel. Moi, je.
La vie est une scène, je fais mon cinéma. On peut se déguiser. On est tous des artistes.
Je continue ma vie d'artiste.
Alors voilà, un petit panel de ce qu'on peut trouver sur les internets quand on cherche le mot artiste sur YouTube précisément. On a pu entendre Pinocchio, d'ailleurs désolé pour la qualité qui est vraiment pas terrible, un philosophe, Bernard Stiegler, ou différents artistes comme Jean-Pierre Mariel ou encore Léo Ferré, et des chroniqueurs que vous avez peut-être reconnus de France Inter dont on parlait en début d'émission. Donc des extraits qui vont de 1940 à 2020.
Ouais, d'aujourd'hui. Oui, Guillermo de je sais plus comment. Le chroniqueur de France Inter, non?
Guillaume Erner ou Meurice?
Il y avait Meurice?
Ouais,
moi,
en fait.
C'était Guillaume Erner, je crois qu'on a entendu au début.
Au début.
Du coup, je crois qu'il est sur France Culture maintenant.
Ah, pardon, je suis navré. Mais il y a Meurice par le petit vieux, un peu critique sur les gauchos. ça vient de Guillaume Meurice.
Il nous a beaucoup fait rire. Ça.
Un peu critique.
D'accord. Et comment ça s'appelle ça? Un match-up, un truc comme ça, non?
Un
montage. J'adore à chaque fois ces montages sonores. Je trouve ça trop bien. Ça te permet d'avoir un panel et trop d'idées qui viennent fuser dans ton esprit. Et on a pu entendre des choses qu'on a commencé à se lancer sur la vision qu'on avait des arts majeurs. Et puis l'artiste manqué, quoi. Toi, en fait, t'es un artiste manqué, toi aussi, du coup.
Oui, pas raté, hein, manqué au sens premier,
voilà,
du terme. Hein.
Au sens freudien, il dit exactement
au
même.
Au sens freudien.
oui, en fait, c'est marrant parce que ce qui ressort, je trouve, du mash-up, c'est un côté, c'est le côté un peu clichetonnant et très grandiloquent de l'artiste, quoi. L'artiste qui est sur un piédestal et qui, ouais, qui déchaîne les passions, qui est un peu dans une tour d'ivoire, et ça finit avec Léo Ferré. et j'adore cette chanson de Léo Ferré, mais c'est vraiment le cliché de l'artiste tourmenté, quoi. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui serait peut-être intéressant à déconstruire et désacraliser un peu l'art, et juste dire qu'exercer une pratique au quotidien, c'est faire de l'art, c'est être un artiste, et que ça fait pas de nous forcément un être qui est dans une tour d'ivoire ou qui est hors du commun.
Ouais, je vois, il y a souvent dans l'idée que je me fais des gens qui font une idée de l'artiste. C'est compliqué. je me dis toujours à chaque fois, ils considèrent l'art comme une pratique élitiste, je pense. Enfin, il y a un truc de, en gros, c'est pas, oh non, l'art, je veux. Enfin, moi qui suis d'un milieu très rural en plus, il n'y a pas d'artistes dans ma famille. Et c'est que des ouvriers, des chasseurs ou des choses comme ça. Donc, en fait, t'as un truc de. En fait, l'art, c'est pas un métier d'avenir ou c'est pas un truc qui est accessible et. Et c'est que des illuminés, les artistes, quoi. C'est des gauchos.
Oui. C'est-à-dire qu'entre les artistes qui se prennent pour des gens hors du commun et supérieurs au reste de la plèbe, et puis les gens qui sont pas des artistes et qui méprisent les artistes parce qu'ils les voient comme des êtres arrogants. Enfin, il y a une espèce de, oui, il y a une espèce de jeu bizarre là qui se crée, et avec beaucoup d'incompréhension et beaucoup d'idées peut-être juste préconçues finalement, quoi.
L'image que certains artistes renvoient, qui sont, comme tu dis, peut-être ceux qui font les artistes, en fait, qui sont artistes, évidemment, qui ont une pratique. Je n'ai pas d'exemple précis, mais par exemple, s'il y a des chanteurs qui, sur les plateaux télé, sont très évanescents dans leur discours et commencent à dire des trucs et dire « Ouais, mais en fait, c'est parce que je suis un artiste. » Par exemple, Gainsbourg, à un moment, une certaine plateau télé, c'était vraiment le cliché de l'artiste de « Il brûle un billet », comme
ouais,
ça.
Ouais, le poète maudit, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, tu es là, ça renvoie cette image-là. Et toi, en tant qu'artiste, tu as envie de dire « Non, mais on n'est pas tous comme ça, quoi. »
oui.
à l'eau, quoi. Genre, c'est, bon.
C'est vrai que c'est paradoxal parce que du coup, il y a aussi une fascination pour cette figure. Et c'est peut-être ça qui fait aussi que c'est ce genre de figure qui émerge médiatiquement, ou en tout cas de manière ponctuelle, et du coup qui contribue à renforcer le cliché, quoi.
Moi, j'avais envie, pour répondre à cette question, qu'est-ce qui te motive à continuer d'exercer ta pratique artistique, que Émilie et moi, vu qu'on est là et qu'on est deux praticiens, on puisse te dire en gros quel est notre métier, un peu plus en profondeur. Et moi aussi, ça m'intéresse, parce que j'en ai jamais trop discuté avec Émilie, de savoir comment on en est venu, comment on pense qu'on en est venu à ça.
Ouais.
Qu'est-ce qui nous a poussé à devenir des praticiens de l'art ?
Alors moi, je suis scénographe de formation, c'est-à-dire plutôt la construction de décors au théâtre, au musée, au cinéma. Mais au final, je suis plutôt en ce moment en train de me diriger pour être assistante accessoiriste, c'est-à-dire que j'assiste l'accessoiriste au cinéma. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est ce métier, t'as le droit de dire non. Hein.
J'ai des idées, mais je ne suis pas certain, du coup, tu peux expliquer comme ça, je serais sûr.
Donc dans le cinéma, il y a plusieurs équipes, images, sons, qu'on arrive assez facilement à imaginer ce qu'ils font. Et il y a aussi l'équipe décoration, on imagine assez aussi bien ce qu'ils font, ils font les décors. Et ça, ils le font en amont du moment où ça va être filmé pour faire le film. Mais par contre, il y a un représentant de l'équipe déco qui est au plateau. Ce qu'on appelle le plateau, c'est le moment vraiment où on est en train de filmer la séquence, qui s'appelle l'accessoiriste, qui est garant du décor et qui est aussi là pour donner les différents accessoires aux comédiens qui jouent. Par exemple, là, si on était en train de nous filmer, l'accessoiriste nous aurait donné nos magnifiques masques et nos casques sur les oreilles, etc. C'est aussi lui qui fait les différents effets.
Nos t-shirts aussi, ou pas ?
Ben non, du coup, les t-shirts, c'est plutôt le costumier. C'est vrai que le masque, ça pose question. Est-ce que c'est un costume
ou un accessoire ?
Ou un accessoire. Bon, ça, faudra en parler avec un costumier. Voilà vers où je vais aujourd'hui. Donc, je dirais que je suis plutôt assistante accessoiriste. Et donc, en fait, je crois que je me en réfléchissant à cette émission, je crois que je ne me considère pas vraiment comme une artiste. Je pense que je fais des choses au service de l'art, puisque là, en étant assistante accessoiriste ou accessoiriste pour les courts-métrages, je suis au service d'une œuvre d'art qui est un film. Mais finalement, je ne considère pas ma pratique, mon métier au quotidien comme étant de l'art. Voilà un peu ce que je dirais. En fait, je crois que avant, j'ai fait les beaux-arts, qui là, c'est vraiment le but, c'est toi-même, quoi. Tu crées ce que tu as envie. Et voilà, vraiment l'artiste de base, l'artiste plasticien. Et je crois que ça ne me plaisait pas, en fait, d'avoir juste moi-même comme propre moteur et être au service d'une autre raison, enfin, d'une autre œuvre. Pour faire équipe et faire une œuvre ensemble, je crois que ça me convient plus. Du coup, j'ai complètement oublié la question, mais...
C'était ça va. non, je peux... Là, tu nous as détaillé ton métier. Je vais un peu plus détailler le mien. Du coup, on a fait la même formation avec Émilie, donc scénographe. Donc, moi, je suis plus parti, ou du coup, j'aimerais plus m'orienter dans le truc, parce qu'on a quitté la formation il y a 2 ans.
2 ans, ouais.
2 ans. Et après, il y a eu le coronavirus. Donc, les théâtres... cinéma, musée, bon, c'était un peu... Même si le cinéma, c'était quand même... enfin, t'as réussi quand même à avoir des contacts et des choses comme ça, des contrats, plutôt.
Ouais, mais en fait, la différence étant que quand on fait un film, on a pas de public, donc on est en huis clos dans notre truc. Donc, les tournages de films, ça continue, mais le problème va se poser là, dans quelques mois, si les salles rouvrent pas.
Oui,
là,
les films doivent s'accumuler.
Ouais, là, on a déjà un beau bouchon. Et en fait... les films sont faits grâce à de l'argent, et l'argent est généré grâce à l'entrée dans les salles. Pas que, mais entre autres. Et donc bah, là, il va bientôt plus y avoir de thunes dans les caisses si notre gouvernement ne nous laisse pas retourner au cinéma. Voilà.
À voir.
On verra.
Et donc moi, je suis scénographe plus de théâtre. J'aurais aussi aimé pouvoir pratiquer plus la scénographie dans les musées pour faire les expositions et les choses comme ça. Et dernièrement, je suis plus aussi, j'interviens en tant que scénographe dans l'urbain pour faire des parcours scénographiques. Donc, par exemple, des parcours sportifs et ludiques ou des choses comme ça, pour donner un exemple précis. Et aussi, je développe aussi en ce moment, avec la création de notre spectacle Entre des vagues avec Émilie, le plus la casquette d'auteur, quoi. Écrivain, c'est ouais. Un peu un grand mot, mais plus auteur. Quoi.
Bon, t'écris, quoi.
J'écris des trucs.
Bon, moi, si t'écris, t'es écrivain, du coup.
Ouais,
donc, mais du coup, c'est marrant parce que la question de le poste d'artiste, enfin, le fait de se qualifier artiste ou pas, c'est des questions qui sont pas mal évoquées avec des... Parce que tu as quand même une pratique artistique. Enfin, pour moi, tu as quand même une pratique artistique. Tu es dans un milieu artistique.
Oui.
Tu es obligé de composer, de créer, de concevoir des choses. Ouais. Pour moi, ça fait partie un peu de l'artistique. Mais tu as le droit de ne pas te considérer comme étant
artiste. Et tu as aussi une pratique artistique, du coup, avec Harold, si je comprends bien. Si vous montez une pièce ensemble.
Oui, c'est sûr. Moi, après, sur ce projet, précisément, je suis à la conception scénographique, mais on est plusieurs. Et à la construction, on est plusieurs. Du coup, c'est vrai que je pense que pour moi, considérer d'être artiste, il y a un peu ce truc de ça vient de ma propre idée, moi, en tant que personne. Mais c'est peut-être une influence due au fait que j'ai fait des études aux Beaux-Arts, je sais pas.
Et que t'aimes pas ce qui est Père Shadow aussi.
Ah ouais, c'est ça, je pense que ça. J'aime pas trop. Ouais.
Ce qui est Père Shadow ?
Oui, c'est une expression qu'elle utilise des fois quand elle... Je sais pas comment dire. Enfin, tu peux l'expliquer.
Quand une chose est beaucoup trop conceptuelle, qui est beaucoup trop intellectualisée, je trouve que ça peut parfois être un peu perché, parce que ça me parle pas. Et du coup, au lieu de dire c'est un peu perché, je dis Père Shadow, mais... Ça a pas trop
du coup, finalement, est-ce que c'est un peu... est-ce que ça n'a pas trait à la défiance dont on parlait tout à l'heure avec Harold sur cette image de l'artiste
Mais carrément.
Ouais, je pense que clairement, il y a de ça. C'est que quand on dit artiste, en effet, on a tous cette vision de l'artiste, du poète maudit, comme tu disais. Et moi, je ne me sens pas poète maudit, quoi. Donc, j'ai pas envie qu'on me définisse comme ça. Donc, je préfère dire que je ne suis pas artiste. C'est peut-être, ouais, ça doit être ça.
Ouais, il y a peut-être un côté très prétentieux quand tu vois quelqu'un qui s'affirme en tant qu'artiste, en fait.
Ouais, mais après, oui. Ouais, c'est une vision. Je sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui se disent artistes et qui sont pas, qui pètent pas plus haut que leur cul, quoi, finalement.
Ouais, peut-être. Et toi, Émilie, comment t'as commencé comment t'es arrivée là, en fait
Pourquoi
c'est né de quoi
C'est né d'une complète désorientation à l'époque où on doit choisir quel métier on veut faire plus tard. Vous savez, cette époque, quand vous avez votre bac là, et qu'on vous dit, alors,
remplir le questionnaire.
Tu vas faire quoi dans la vie ?
Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie ? Je sais pas. Donc à l'époque, j'aimais les maths, donc j'ai décidé de faire des études de maths. Aucun rapport avec l'art. Hein. et en fait, je me suis dit, putain, mais j'ai pas envie d'être prof de maths, quoi. Merde, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les maths ? En gros, par rapport à là où j'étais lancée, pas grand-chose d'autre. Puisque j'avais pas le courage d'être ingénieur, je trouve que c'était un peu trop haut pour moi, par rapport à ma motivation personnelle. Et à l'époque, j'aimais bien faire du montage vidéo, de vidéos de potes, en vrai, c'était des vidéos de soirée. Et ça me faisait marrer de faire du montage vidéo. Du coup, j'ai postulé pour un BTS pour rentrer dans le montage et j'ai pas été prise. Et j'ai été voir un conseiller d'orientation qui m'a dit « Ah, mais si vous voulez faire de la vidéo, vous pouvez aussi faire les Beaux-Arts. » Donc,
le joker, il t'a sorti un joker, en fait.
Ouais, grave.
Bah, les Beaux-Arts.
Les Beaux-Arts. Et du coup, bah voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans les Beaux-Arts, parce qu'il y a un conseiller d'orientation qui m'a dit « Ah, si vous voulez faire de la vidéo, faites les Beaux-Arts. » Alors qu'à la base, quand même, mon envie, c'était pas d'être artiste, c'était de faire du montage vidéo et de faire des documentaires sur Arte. Voilà, c'était très précis.
Ah, trop bien.
Donc, il n'y avait pas de notion artistique, mais ça a un peu dévié, jusqu'à faire scénographe, quoi.
Et du coup, c'est quand que tu nous fais des documentaires sur Arte, alors
Bientôt
demain, demain,
ouais, pas de soucis, Et toi, alors, Harold, qu'est-ce qui t'a amené là ? Puisque toi, si tu viens d'une famille... qui n'est pas une famille d'artistes, j'imagine que c'est pas, peut-être pas un rêve d'enfant d'être artiste, je ne sais pas.
Eh bien si, en fait. Parce que même si l'ancienneté de ma famille, donc je parle de mes grands-parents plutôt, sont plus d'un milieu rural, mon père a un peu dévié. Lui était aussi très, très fort à l'école. Enfin, très fort en maths, en tout cas. Je ne sais pas si c'était très fort, mais lui, apparemment, c'était un bon élève. Et il a décidé de faire une école d'architecture. Et donc, il est devenu architecte urbaniste.
Okay.
Et c'est un peu la divergence de notre famille, parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre qui est dans un milieu artistique, à part lui. Et quand j'étais petit, je le voyais travailler et faire des dessins, vu qu'il est architecte. Donc, et je trouvais ça fascinant de réussir à faire des dessins avec une main. Enfin, j'étais petit à l'époque. Hein. Je me disais, oh, mais c'est incroyable et tout. Et je me suis mis à pas mal dessiner quand j'étais petit. Et le deuxième rêve de gosse que je voulais faire, parce que le premier, c'était coureur de Formule 1, le deuxième rêve, c'était de devenir dessinateur de bande dessinée. Mmh. Et on m'a dit, dessinateur de bande dessinée, c'est pas trop un métier d'avenir, en fait. Ça serait bien.
Personne ne lit de BD.
Mais à l'époque, en tout cas, on m'a dit, ça serait peut-être mieux que tu trouves un métier qui te rapporte de l'argent et que tu fasses du dessin à côté et après que tu fasses de la bande dessinée. Donc, je me suis dit, Bon, ok, on va faire ça alors. Et je suis scénographe. Donc, j'ai pas trop écouté les gens en fait.
T'as pas écouté tes parents.
mais en fait, c'est un peu venu comme ça. C'est-à-dire qu'à l'école, j'étais, pour le coup, moi, j'étais très moyen partout. Entre 10 et 12, quoi. Mes moyennes, c'était pas foufou, quoi. Et je me suis beaucoup ennuyé. Donc, j'ai beaucoup. C'est un peu cliché, quoi. J'ai beaucoup dessiné en cours, dans les marges et tout ça. Et je savais pas trop ce que j'allais faire. Et. C'est pour ça, il y a eu la conseillère d'orientation, en vrai, qui m'a dit... Bah,
la fameuse.
Décidément.
Je sais pas, et remplir le questionnaire.
Ouais, c'est ça.
Oui, au final, c'est un métier. Hein. Et remplir le questionnaire, et il me dit, par rapport à tes réponses, t'es plus dans le domaine artistique, alors il y a ça comme métier. Et du coup, j'avais vu architecte d'intérieur, donc je m'étais orienté là-dessus. Et après, d'architecte intérieur, je me suis plus généralisé en me disant, ouais, ça manque un peu plus d'artistique, donc je vais aller aux Beaux-Arts. Dans du design d'espace, donc du design d'espace après. Puis il y avait le métier de scénographe, vu que j'ai fait 10 ans de théâtre amateur qui était un peu à côté. Mais pour moi, c'était un peu un taf inaccessible. Je me dis, ouais, ça serait trop la classe de faire ça, mais je me sens pas capable, quoi. Je pense que ça, c'est la peur un peu de se dire, de le tenter et de pas réussir. Et au final j'ai été pris dans la formation qu'Emilie et moi on a fait. Donc voilà. Je suis parti là-dessus et je me suis dit, non, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça et écrire des trucs.
Et dessinateur de BD, du coup
On verra. On verra, mais c'est pas un truc que j'ai enlevé. J'avais vu un podcast de Samuel Etienne qui parlait de ses rêves d'enfant. Samuel Etienne, c'est le présentateur de Qui veut gagner des champions, je crois.
Qui veut gagner des champions?
C'est pas du tout ça.
J'ai pas la télé, ça, mais ouais, franchement...
Ouais, moi non plus, ça me paraît surprenant.
Ça voit que je la regarde pas beaucoup ou pas?
Moi, je veux bien gagner un champion. C'est...
Samuel Etienne, c'est pas le mec qui est
Question pour un champion.
Ah.
Oui, aussi.
C'est ça, c'est le mec qui
a... Et c'est Question pour un champion aussi. Ouais, et il est sur... il a fait un passage sur Twitch aussi.
Question pour un million, c'est ça?
Question, ouais. Question pour un champignon. Non, en fait, on n'a pas le droit de donner les émissions, donc c'est pour ça que je fais des match-up aussi. Et il disait qu'en fait, quand il était petit, il voulait être journaliste. Et du coup, il a fait sa vie. Et un jour, il s'est dit, hey, mais il faut que je me rattache à mon rêve d'enfant. Donc peut-être qu'un jour, la bande dessinée reviendra à moi ou je reviendrai vers la bande dessinée. La question pour répondre à ça, pourquoi? C'est quoi la motivation? Peut-être qu'on peut dire, en gros, pour moi, j'ai traité à peu près 3 points en préparant cette émission en disant, pourquoi on devient artiste? Enfin, c'est quoi l'objectif? C'est quoi qui nous motive à nous deux à devenir artiste ou à accéder à la pratique? Et on a déjà un peu évoqué la conseillère d'orientation, déjà.
Ouais.
Je l'avais marqué, en vrai. Je me suis dit, ouais, c'est une orientation raison, comme une autre et tout. Et, voilà. Et moi, ce que j'avais marqué, vous allez me dire ce que vous en pensez, sur le fait que, personnellement, pour moi, c'est un non-choix. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fois dans ma vie où j'ai été confronté à des échecs dans ma pratique. Et je me suis dit, mais en fait, si je réussis pas là, je sais pas ce que je fais de ma vie, en fait. Je me voyais pas dans autre chose que ça.
Moi, jamais d'échec, non. Jamais.
Cool. Alors, on va rayer.
C'est marrant, ça me fait penser. Je crois que c'était Jean d'Ormesson qui écrivait ça dans un de ses bouquins, qui disait qu'il savait vraiment pas ce qu'il voulait faire de sa vie et que préférablement, il voulait plutôt ne pas faire grand-chose et qu'il pensait que c'était peut-être une des caractéristiques pour devenir artiste. Quoi. C'était peut-être un prérequis pour devenir artiste.
Ah mais c'est marrant, peut-être que les artistes sont tous feignants en fait, et c'est pour ça qu'ils sont artistes. Ils n'ont pas envie de pratiquer autre chose que ça. Non mais moi je veux juste dessiner en marge de mes cahiers de maths et puis c'est bon quoi. Je suis artiste finalement. Donc j'avais ça comme premier point que je trouvais intéressant de se dire. Enfin là après moi c'est ma vision personnelle, mais toi Emilie, toi t'avais choisi ça de. C'est un peu un parcours de circonstances, j'ai l'impression.
Ouais moi clairement c'était pas prévu, même quand j'étais à l'époque aux Beaux-Arts, je me disais mais moi j'ai pas envie d'être artiste, qu'est-ce que je fous là quoi. Sauf que j'ai un peu ce truc de quand je commence quelque chose, je le finis, donc voilà, j'ai fini mes études.
Parce que du coup, tu te sentais déphasé?
Mais ouais, mais complètement.
Par rapport aux gens et aux enseignements.
Mais complètement, mais par rapport à cette histoire de père Shadow, quoi. C'est-à-dire qu'il y en avait qui faisaient une vieille merde sur une toile, mais vraiment, tu vois, un truc dégueulasse, qu'il n'y a vraiment aucun intérêt. Et ils te font des discours vraiment incroyables, hyper intellectuels, et les profs sont là, mais oui! Mais oui, c'est ça. Là, on le tient, quoi. Et toi, tu te fais chier à essayer de faire un truc qui te plaît esthétiquement, mais en fait, c'est vrai que j'avais peut-être pas forcément trop de discours derrière, parce que j'étais pas habituée à ça. Et ça marchait pas du tout. J'étais, mais en fait, il faut faire de la grosse merde et dire n'importe quoi, et ça marche. Je me sentais vraiment en décalage, quoi, pour le coup. Enfin, bon, là, je rentre dans des clichés. Hein. Je suis désolée pour les étudiants aux Beaux-Arts qui nous écoutent en ce moment. Je ne veux pas vous attaquer. Mais c'est vrai que j'ai un peu mal vécu mes études aux Beaux-Arts. Hein. Désolée.
Oui, c'est vrai que c'était moi qui ai aussi passé par là. Des fois aussi, mais tu te rends... Enfin, d'autres, quand tu te retrouves face à d'autres étudiants qui sont un peu... Comment dire ? Qui ont la volonté de devenir unique, si je peux le dire comme ça, c'est un peu déstabilisant parce que tu te dis non, mais c'est un peu du... C'est un peu trop, quoi. Genre, ça fait vraiment les personnes qui veulent devenir artistes, donc qui se mettent un peu une enveloppe de « je suis artiste et je fais des trucs artistiques et tout ça ». Y avait un autre point, et du coup, ça va nous faire glisser sur une musique pour nous faire une petite pause, qui est une musique de Charles Aznavour qui s'appelle « Je me voyais déjà », qui a été faite en 1960, et qui parle en fait de le besoin de devenir une star, en fait, la reconnaissance et surtout de... La recherche de la gloire.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entré sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre, j'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance, d'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Je me voyais déjà de Charles Aznavour, de 1960. Vous êtes bien sur Prune 92 FM avec Émilie et Antonin et moi-même, Harold, dans l'émission La Cabane. Et donc, on avait choisi, parce que Nolwenn Mortier, qui n'est pas là aujourd'hui, m'a conseillé cette musique. Et pour en fait parler du fait que, des fois, la volonté d'être artiste, enfin, on l'a un peu évoqué dans l'idée d'être un artiste reconnu, ou d'être un artiste raté, ou un artiste... En gros, c'est un peu l'idée de, quand t'es artiste, t'as envie quand même de réussir. Enfin, il y a l'idée quand même de réussite, d'être reconnu. Mm. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même la volonté de, par exemple...
D'être une star. Quoi.
D'être une star. Quand quelqu'un commence la chanson, quand il est petit, bah, il y a toujours cette image de « Ah ben moi, je vais être une star de la chanson française ou internationale et je vais être au top. »
Ouais.
Et en fait, il y a quand même cette notion-là dans le côté artistique de la pratique en tant que métier, hein, pas en tant que, comme tu l'évoquais, de juste pratique où t'en fais pas ton métier, de se dire « Un jour, ça va marcher. » Un jour, j'aurai mon taf et un jour, je serai reconnu et je serai approuvé par mes pairs, en fait.
Oui, oui, il y a un... En fait, c'est... Il y a presque une obligation, une nécessité de reconnaissance, quoi, qui vient légitimer le travail et la pratique. Et comme si, finalement, si jamais il n'y a pas d'autres gens qui te disent que ce que tu fais, c'est génial, ben, ça ne valait pas le coup de faire ce que tu fais, quoi. Et c'était un des sens de ma question, je pense. Qu'est-ce qui te pousse au quotidien à pratiquer ton art? Parce que je pense que bah, le regard des autres, c'est pas suffisant du tout comme moteur, mmh. quoi. Et donc, du coup, il faut d'autres choses. Et je pense que si t'as que le regard des autres, tu risques d'aller de désillusion en désillusion, à moins d'avoir la chance un jour d'être le mec sur un million qui sort, quoi. Mais finalement, c'est très rare, quoi.
Après, il y a un truc qui, tu parles du regard des autres et qui est aussi très intéressant et qui rentre dans ce domaine-là, c'est de se dire que, enfin, tu dis le regard des autres n'est pas suffisant et en même temps, c'est le moteur aussi. Parce que quand on produit une œuvre artistique, que ce soit une peinture, une sculpture, un film ou même une pièce de théâtre ou une exposition, en fait, pour moi, je trouve que ça rentre en compte et il y a aussi quelque chose qui est là et qui est les peurs de ça ne va pas convaincre ou ça ne va pas satisfaire ou... Et ça, c'est des questions qu'on me pose. Mon coloc Bastien m'a dit ça, en fait, à un moment. Il m'a dit, en gros, je pourrais pas faire ce que tu fais, ce que vous avez fait, par exemple, avec Entre deux vagues, qui s'appelait Navigateur l'été dernier, c'était
ouais,
ça, ouais.
C'est ça.
Parce que c'est vous exposer au regard des autres dans la rue en ne sachant pas si ça va fonctionner ou pas, en n'étant pas sûr que ça va fonctionner. Et ça, c'est une sorte de prise de risque que lui, il trouvait insurmontable, en fait. Se dire, genre... Enfin, moi, il n'a pas utilisé le mot peur, mais moi, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même, dans le fait des gens qui refusent d'avoir une pratique artistique professionnelle, disaient de dire non, mentalement, en fait, c'est dur, je ne serais pas assez forte d'affronter le regard des autres et la critique.
Oui, enfin, oui, encore une fois, professionnel ou pas, hein, parce que moi, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve beaucoup aussi. Cette peur, en fait, je trouve que dès l'instant où tu as une démarche de création, il y a très vite des choses qui sont de l'ordre de l'intime. Que tu viens mettre dedans, en fait. Et du coup, tu viens te mettre à nu. Et ouais, je trouve que c'est hyper angoissant, moi. Du coup, je n'ai pas vu votre pièce, mais en tout cas, je comprends la remarque de Bastien complètement, quoi. Dans le sens où c'est dur de s'exposer comme ça. Il faut un certain courage pour le faire, quoi.
Mais c'est sûr que c'est vraiment différent. Enfin, moi, qui, comme je disais, j'ai commencé par des études de maths. Quand tu te fais juger sur un exercice, tu ne mets rien de toi. Enfin, tu mets ta logique, mais tu ne mets rien de toi personnellement. Et arrivé justement dans le milieu artistique, c'est ça qui m'a marqué, de me dire en fait ce que je fais maintenant, je donne de moi, alors que j'étais habituée à ne rien donner de ce que je suis et juste à essayer de répondre de manière logique et pragmatique. Et je pense que c'est ça la grosse différence de manière générale entre l'art et le reste des pratiques. Enfin, c'est peut-être un peu exagéré ce que je dis, mais...
Non, mais oui, c'est juste le fait que... Oui, le fait que tu mettes de toi et qu'il n'y a peut-être que là que tu dois mettre autant de toi et que du coup, la critique est si difficile à...
Ouais, c'est ça. C'est que la critique, elle est plus dure à apprendre. Parce que quand on te critique ton exercice de maths, bon, bah, tu dis juste que tu n'avais pas bien appris ta formule, mais en fait, tu ne te remets pas trop en question. Quoi.
Ouais.
Alors que quand on critique justement ta pièce de théâtre, c'est presque, tu peux presque le prendre personnellement, enfin, je pense.
Ouais, je pense même que c'est dur de ne pas le faire. Presque.
Oui, en plus.
Et c'est d'autant plus compliqué, là je l'ai ressenti quand j'ai, du coup, pendant cette année et l'année dernière, commencé à écrire. L'écriture, c'est aussi enfin, je me dis, c'est incroyable le temps que je passe à écrire et surtout à ne pas écrire parce que j'ai peur des mots que je vais étaler. Dans le sens où si je les étale, il faut que ça soit en gros lisible, compréhensible et les gens, ils vont prendre les mots comme ils sont en fait. Donc en fait, il y a une sorte vraiment de jugement et de se dire... Ok, alors là, j'écris un truc, il faut que ça soit parfait. Ce n'est pas comme une improvisation à l'oral. On avait parlé de ça durant l'émission passée qui était de lâcher prise sur l'improvisation et le fait que quelque chose soit écrite. Et ouais, la peur et le faire comme ça, c'est d'un côté, c'est une motivation d'utiliser le regard des autres. Et d'un côté, ça peut être très castrateur, en fait, de se dire, OK, là, la critique, je pense que je ne pourrais pas la supporter. C'est très intéressant, je trouve. Il y avait un autre point que je voulais évoquer par rapport à la motivation. Et je pense que l'artiste, en fait, utilise cette pratique artistique aussi pour pouvoir faire passer un message. C'est aussi des sujets qu'on a évoqués. Faire passer un message ou faire passer une émotion qu'il ressent. Et un peu genre d'un côté thérapeutique, genre utiliser l'art, sa pratique, sa profession, comme étant quelque chose où il peut exprimer quelque chose.
Faire sortir des choses qui sont à l'intérieur de lui.
Ouais, ou même des messages politiques ou les choses comme ça. Par exemple, Picasso, quand il a dessiné Guernica, pour lui, c'était vraiment un truc de... OK, il y a déjà un problème dans le monde, et puis moi, ça me fait cet effet-là, et il faut que je le montre, et il faut que j'en parle, quoi.
Oui, oui, complètement.
Et ça, je trouve que c'est un côté très motivant. Après, Émilie, je ne sais pas comment toi, tu te places par rapport à ça, parce que comme tu dis, toi, tu te positionnes plus dans un métier technique et de l'ombre, mais...
Oui, enfin, mais après, je suis complètement d'accord avec toi et je fais partie de la genèse de Entre deux vagues, entre autres le spectacle dont on n'arrête pas de vous parler et que vous entendrez la fiction radiophonique cet été d'ailleurs sur Prune. On vous en dira plus un peu plus tard. Mais
tu fais de la promo là.
Ouais, complètement. Okay. Faut en profiter. Hein.
T'as bien raison.
Mais par exemple pour ce projet et pour les différents projets qui sont faits au sein de Millet et Paillettes, notre compagnie, là pour le coup, moi c'est important pour moi. Qu'il y a un message derrière, je pense, justement, de peur d'être dans ce truc trop intellectuel.
Ouais, qui ou trop plat, quoi.
Ouais, et qui parle qu'à une certaine catégorie de personnes, les personnes qui ont les références artistiques, etc. Alors que moi, je suis plus dans... Ouais, parler à tous et parler de sujets qui peuvent toucher tout le monde et pas juste ceux qui ont les références, quoi. Je pense que c'est ça aussi.
C'est vrai que c'est pas mal arrivé en allant au théâtre, je crois que c'est au Grand T, c'est pas mal arrivé pour moi, personnellement, ou plus... plus au LU, vu qu'on est à Nantes, au LU, ça m'est pas mal arrivé de regarder des pièces de théâtre ou de danse et de me dire, en fait, c'est très élitiste, j'ai pas les références, et ça s'adresse aux gens qui vont souvent regarder des pièces et qui ont les outils en main, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et là, c'est un autre sujet encore, mais en gros, c'est...
oui, oui.
C'est l'ouverture, quoi.
Pour rebondir là-dessus, moi, c'est quelque chose qui me touche aussi beaucoup. Chez un artiste, c'est sa capacité à être éclectique et à toucher tous les publics. Et un des artistes que j'aime et que j'admire le plus, je pense, c'est Georges Brassens, parce qu'il a vraiment cette capacité. Enfin, c'est un mec, tout le monde le connaît en France, alors que ses textes, ils sont loin de... Enfin, c'est quand même hyper recherché, hyper travaillé, hyper poétique. Mmh. Et pourtant, il n'est pas dans une tour d'ivoire. Ce n'est pas l'artiste intellectuel intouchable. Il a un côté vraiment bonhomme avec sa grosse moustache et son gros bide, quoi. Et je trouve qu'arriver à lier ces deux côtés-là, c'est... Finalement, c'est très rare et c'est assez génial, quoi.
Oui, être universel, je crois que ça doit être l'un des... Enfin, pour moi aussi, c'est l'un des points qu'on devrait, en tant qu'artiste, tous travailler en disant à qui je m'adresse et essayer de s'adresser au maximum de personnes. Enfin, rendre accessible l'information ou même l'intention. Sur cette thématique-là, j'avais aussi envie de vous faire passer une petite musique qui n'est pas du tout dans le même registre, qui est plus dans le domaine du rap. Et qui s'appelle Scanner de Gringe, featuring Léa Castel. Est-ce que vous connaissez ces deux personnes ou pas du tout?
Léa Castel, moi ça me dit quelque chose.
Toi, t'as l'air de connaître Léa Castel.
Ah,
t'aimes pas Léa Castel?
Ouais. Léa Castel, ça me dit.
Je pense que c'est pas du tout ton style de musique en plus.
Bah, Gringe, je connais.
Gringo.
Je connais, oui.
Léa Castel, celle qui a fait un duo avec Soprano, un truc où ils parlent qu'ils ont un bébé, je sais pas quoi. Oh, un titre vraiment, mais pour ado, quoi, non?
Ça t'a laissé des
séquelles.
Ouais.
J'avoue que je connais pas trop. Moi, je connaissais plus Gringe par rapport à sa filiation avec Orelsan.
Moi aussi, je l'ai cassé au flotteur.
Ouais.
Qui est vraiment cool, d'ailleurs. J'aime.
Et avec les séries bloquées aussi, ou choses comme ça. Mais Léa Castel, pas trop suivie. Elle a fait une télé-réalité, pas une télé-réalité, un plateau, non? Un plateau télé, non? Aucune genre idée. The Voice ou un truc comme ça, non?
Je sais pas.
Bon, on cherchera l'information.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre. Donc, tout de suite, Gringe Scanner.
Je comprends pourquoi cette envie de tout brûler. On a poussé au cœur du magma. Tous les moyens étaient bons pour gruger. Et maman qui jouait le rôle de papa montre aucun signe de faiblesse, soit précoce. L'école nous enferme, bien sûr qu'on décroche. C'est donnant, donnant, violent, violent. Je sais c'est dur, accroche-toi de toutes tes forces. Ici c'est gagner le respect sans dire merci. Baiser les règles et faire jouir cette vie. Quand violence fait loi, le climat se dérègle. Là où l'aveugle est roi, le témoin est bègue. Sûrement qu'on manquait peut-être d'un cadre, mais fuck les mises en garde, on se fout de leur AV. Moi je m'étonne même plus quand tu pètes un câble, sans capter que tu peux y laisser ta vie. Mais ce soir il a suffi d'une fois, d'un mauvais trip, un mauvais mélange, pour que les drogues de synthèse te foudroient. Et que tu t'en ailles tutoyer les anges, cerveau disloqué, convulsion hardcore. Et plus personne à bord pour piloter. Juste tes potes te ramènent à la maison, mais trop tard pour qu'on te ramène à la raison. La chair de ma chair s'en est allé dans des régions trop sombres. Et je découvre ce putain de scanner qui nous parle de tes lésions profondes. Impossible de vivre normalement. J'ai volé le sourire de la Joconde. Et je crois que plus rien ne sera jamais comme avant. Elle s'est envolée la
blessure
colombe.
Blessure m'ont bousillé le crâne. Mais si je rassichais tes larmes, j'irais plonger dans le cerceau, me jeter dans les flammes. Pour t'aider à retrouver le calme, que le mauvais sang nous épargne. J'y laisserai corps et âme, je dois sécher tes larmes.
Verdict est tombé, t'entends des voix, tu parles seul, ton cerveau sature et tu t'isoles pendant des mois. Puis ça fait maintenant 15 piges que ça dure. Dans ces hôpitaux que la javel embaume, tu déambules dans les couloirs comme un fantôme. De chambres sordides en chambres sordides, ton esprit renferme un coffre fort vide. J'en fais des cauchemars, ils me tordent l'âme. Réveillé la nuit par mes propres larmes. Mais qu'est-ce que je peux faire à part fixer le plafond, pleurer en silence et demander pardon. Toi dans ton coin qu'enchaîne soin sur soin, tes allers-retours sont comme à la prison. Moi dans mon coin, je roule joint sur joint. Je me soigne au pilon, mon regard en dit long. Si je te rejette, c'est que je me sens désœuvré. L'impuissance me pousse à mettre des œillères. Réaction de lâche, je suis désolé. Tu puisses à peine compter sur ton seul frère. Et plus tes crises de folie prennent de l'ampleur, plus tes silences sont des lames qu'on m'enfonce dans le cœur. Mes chocs émotionnels dans l'ascenseur, les deux mains sur les oreilles quand maman pleure. Et personne comprend pourquoi je suis blessé, pourquoi j'ai la gueule d'un avis de décès. Les souvenirs me hantent, je nous revois gamins, deux frères soudés comme les deux doigts de la main. Ma vie est la tienne, frère, sèche tes larmes. Non, je connais personne de plus courageux. Et quand la solitude nous désarme, on fait comme on peut, on serre les coudes à deux.
J'ai le crâne, mais si je séchais tes larmes, j'irai plonger dans le cerceau, me jeter dans les flammes. Pour t'aider à retrouver le calme, que le mauvais sort nous épargne. J'y laisserai corps et âme, je dois sécher tes larmes.
Blessure mon beau yeux.
J'ai le crâne, mais si je dois sécher tes larmes, j'irai plonger dans le cerceau, me jeter dans les flammes. Pour t'aider à retrouver le calme, que le mauvais sort nous épargne.
J'y laisserai corps et âme, je sécherai tes larmes.
C'était Scanner de Grinch featuring Léa Castel. Et oui, vous êtes bien sur Prune 92 FM. Alors Léa Castel, on a regardé pendant la pause musicale Popstar 2007. Donc effectivement, ça fait un petit moment. À travers cette chanson de Grinch, il parle de la schizophrénie de son père, de son frère. Voilà, et donc c'est ce qu'il illustre dans cette chanson. Il a d'ailleurs écrit un livre en 2020, donc l'année dernière, qui s'appelle Ensemble, on aboie en silence, qu'il a écrit à quatre mains avec Thibaut, son frère, donc atteint de schizophrénie.
La cabane, l'émission où l'on parle d'art sans complexe.
Les branches de ce jeune arbre sont bien trop fines. Il va la prendre à ses dépens.
Il fallait à tout prix qu'on passe ce jingle, il est vraiment trop rigolo.
C'est un jingle digne d'un documentaire art.
C'est ça. Pour le clin d'œil à Émilie. Donc on a un peu balayé, genre, pour répondre à cette question, qu'est-ce qui nous motive à pratiquer une activité ou un métier artistique? Un peu à genre, qu'est-ce qui nous a motivé à commencer ce métier? Et quelles auraient pu être les motivations, en fait. J'ai utilisé beaucoup le terme motivé,
ouais,
en fait.
Un peu.
J'ai dû prendre d'autres mots. Et du coup, pour répondre vraiment à cette question, puisqu'en fait, on, on, On évite le sujet, en fait, depuis le début. Tu nous poses une question et ça fait une heure qu'on discute de... Bon, attends, c'est un peu plus compliqué que ça. Toi, Émilie, par exemple, pour répondre à ça, est-ce que tu aurais une idée de se dire qu'est-ce qui te motive à continuer cette pratique?
Je crois que c'est que j'aime ce que je fais, en fait. Et ça a l'air de fonctionner et de m'apporter de l'argent, quand même. Y a un peu
tu gagnes beaucoup de flouze. Oui,
ouais, je gagne plein la thune.
Mais par exemple, sur un projet comme Entre deux vagues?
Par exemple, sur Entre deux vagues, je gagne pas de thune.
C'est vraiment le bon exemple.
C'est vraiment le bon exemple.
Qu'est-ce qui te motive alors? Parce que là, s'il n'y a pas l'argent, c'est qu'il y a autre chose, du coup.
Ouais, je pense que c'est le fait que c'est un projet que j'ai fait naître de ma petite tête, avec la petite tête d'Harold et de Ariane, dont on entendra une lecture juste après. Et ça vient vraiment de nous, et j'ai envie que ce projet pour lequel on s'est déjà donné, il aille au bout, et qu'il y ait des gens qui le voient. Je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il ait un public pour toucher les gens et avoir des retours. Quitte à ce que ça leur plaise pas, moi ça me dérange pas, que ça plaise pas. Je pense que tu touches quand même les gens, même si quand ils aiment pas, en fait.
Oui, tu les fais quand même réagir.
Voilà. Je pense que c'est ça, c'est d'aller au bout. Mais c'est toujours ça, en fait. Je crois que j'ai besoin d'aller au bout, même quand j'aime pas. Donc finalement, là, j'aime bien. Donc j'ai envie d'aller au bout.
C'est vrai que pour rebondir sur Entre deux vagues, c'est un projet où on n'est pas payé, où on aurait pu arrêter depuis longtemps parce qu'on n'est pas payé, parce que c'est très... C'est très chronophage, on déploie quand même des moyens personnels, quoi, en termes de temps, de motivation. Et moi, je suis assez d'accord avec toi, je te rejoins carrément là-dessus. Et j'aurais aussi envie de rajouter, pour ma part, qu'il y a aussi, j'ai l'impression que c'est un projet où il y a un message aussi qui s'inscrit, quelque chose, si elles sont racontées juste, par exemple, je sais pas, une histoire qui nous toucherait pas, tandis qu'en fait, dans le texte, dans l'écriture, alors c'est peut-être, je dis ça peut-être parce que je suis égocentrique et parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais sans doute. Mais en fait, pour moi, il y a un message, en fait. Il y a un message et on veut faire passer quelque chose, une émotion, des informations. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Il y a aussi le côté... c'est notre moyen d'expression. C'est notre manière de communiquer avec les gens, de rassembler les gens aussi. Pour moi, il y a un peu ça.
Moi, il y a aussi le fait que c'est de l'art de rue, ce projet, et que l'art de rue, c'est pour moi... le domaine artistique qui me touche le plus personnellement, puisque par exemple je travaille dans le cinéma, mais je regarde pas beaucoup de films en vérité. Mais l'art de rue, ça pour le coup, dès qu'il y a un festival, j'y vais direct, je réfléchis pas, parce que ce que j'aime dans l'art de rue, c'est le fait que ça touche justement tout le monde sans catégorie sociale, puisque c'est gratuit et que ça s'impose hein, toi, en fait. C'est dans ta rue, en bas de chez toi, t'avais pas prévu. Et c'est ça qui me plaît. Et du coup, de participer à ce domaine artistique que quand je l'ai découvert, je me suis dit « Ah, mais c'est ça la véritable manière de faire de l'art, de mon point de vue, bien sûr. » Pour moi, c'est important, en fait, d'essayer de rentrer dans ça et de faire des choses pour offrir de l'art à tous.
Il y a peut-être et aussi rendre ça. Accessible. C'est aussi un excellent motivateur pour moi. Et aussi, je voulais rajouter ça, le côté un peu métier-loisir. Ce côté, bon, c'est très mal dit, mais ce côté de, en gros, t'as un métier, et pour moi, c'est presque inconcevable de me dire, j'ai un métier, et genre, ça me fait chier de le faire pendant 5 jours, et je le fais pendant 5 jours pour avoir un week-end, et pour pouvoir partir en vacances, ou les choses comme ça, et après, je repars sur 5 jours où j'aime pas mon métier. Et en fait, le fait de choisir un métier où on s'en ancré dedans...
Un métier passion.
Un métier passion.
C'est beau.
Dans la bibliothèque de Riri. Lecture. Lecture.
Hello la cabane. Aujourd'hui, je vous propose un texte de Yanis Kokos, extrait de son livre Le scénographe et le héron. Ça s'intitule L'esprit de l'air. Nous sommes les architectes de plâtre et de vent. Nous matérialisons les utopies. Notre fonction est d'être les architectes de l'imaginaire, de réaliser ce que personne ne peut réaliser en urbanisme, des architectures éphémères. Elles traduisent par nos rêves la parole des poètes. Au théâtre, il est nécessaire d'imaginer des systèmes de fragilité. Pour moi, le théâtre est un art léger. La fragilité constitue le théâtre et elle ne peut s'accommoder de la pesanteur. Mais cette fragilité ne doit pas être assimilée à la frivolité. Car au théâtre, il faut donner à une décision toute sa gravité justement parce qu'il est éphémère. Cet art qui disparaît comme les instants de la vie ne peut pas être envisagé légèrement. Disons qu'une telle légèreté lui est fatale. Parce que éphémère, il doit être parfait, mais nullement d'une perfection académique. A priori, au théâtre, tout est lourd. Le corps est pesant, les décors peuvent être pesants, la manipulation, les costumes. Si au théâtre toute cette lourdeur ne s'évapore pas pour garder que l'esprit des choses, que leurs vibrations, alors le théâtre cesse d'exister. Le théâtre est pour moi le dépassement de la matière, non pas uniquement dans le sens spirituel du terme, mais aussi dans le sens concret. Le théâtre existe à partir du moment où la pesanteur ne se voit pas, et où il capte l'esprit de l'air. Ce texte qui évoque poétiquement le métier de scénographe, j'espère, rentrera en écho pour Émilie et Harold et qu'ils le trouveront aussi inspirant que je le trouve inspirant.
Ben merci Ariane pour cette lecture. Malheureusement, Ariane n'a pas pu être parmi nous, mais elle nous a fait part de sa voix et c'est le plus beau des cadeaux.
Ça parle de lourdeur des choses et que justement le théâtre c'est enlever cette pesanteur et cette lourdeur, et je crois que c'est ça qui me plaît justement dans l'art de rue, c'est de se dire, et dans notre spectacle entre autres, c'est de se dire qu'on traite de sujets qui pour nous sont très importants et qui sont importants, comme l'écologie et la gestion des déchets dans la mer, qui est quand même pas un sujet très rigolo. Et qui, par l'art et la fiction, on va pouvoir aborder ça de manière plus légère, amener de la légèreté dans des choses qui sont peut-être un peu lourdes. Et je crois que c'est ça, la force de l'artiste.
C'est un peu pour désamorcer le « oh, ça va !» Tu vois, genre quand tu dis un truc... Il y a la pollution quand même. « Oh, ça va, c'est bon !»
C'est bon.
Oui, c'est intéressant parce que je trouve que le sujet comme la pollution ou les enjeux environnementaux, c'est des sujets que collectivement, on est encore aujourd'hui incapable de penser correctement.
Ouais.
Et peut-être que l'art et des manières détournées d'arriver sur ces questions, c'est une des manières pour faire en sorte qu'on arrive à ordonner nos pensées sur ces problèmes.
Mmh. Oui. En faisant passer un message aussi, touché à plus le côté sensible, le fait de raconter une histoire, de pouvoir se projeter dans un personnage aussi, ça rentre pas mal en compte. Et de l'intégrer dans notre culture pop.
Et puis en plus, si tu crées un univers, il y a des choses que tu acceptes plus facilement si tu es un peu moins rattaché à la réalité, quoi.
Je crois que c'était Damasio qui disait qu'il pensait que c'était vraiment important et que lui, c'était quelque chose vers lequel il essayait de tendre, d'essayer de recréer des imaginaires, réinventer des imaginaires, et notamment sur les enjeux environnementaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on a que peu d'imaginaires sur ces sujets-là. C'est encore tout récent, tout frais. Et je pense que c'est vraiment fondamental, effectivement, de recréer une autre manière de penser, de comprendre et de parler de poésie sur la nature et sur ce qui nous entoure.
Et ça sera sûrement le sujet d'une autre émission, puisque celle-ci touche à sa fin et qu'on commence à s'écarter du sujet, ce qui est plutôt bon signe, hein, on pourrait parler encore
c'est l'ouverture à la fin de la dissertation.
Exactement.
Sur l'idée de réinventer un petit peu l'art et les manières de dire les choses. En tout cas, merci beaucoup, Antonin, d'être venu voyager avec nous dans cette cabane.
Bah, merci à vous discuté. De m'avoir invité.
J'espère que ça t'a plu, que tu t'es pas senti trop traumatisé.
C'était très angoissant.
Ah, bon, tant mieux alors.
Est-ce qu'on a finalement quand même réussi à répondre à tes interrogations ou...
C'était très intéressant. Ouais, je pense, en bonne partie.
Non, mais c'est très intéressant.
Ah, c'est intéressant parce que c'est des interrogations qui... Finalement, même en parlant une heure, on n'a pas fini de répondre et je pense qu'on n'aura jamais fini de répondre.
Et en tout cas, merci aussi aux auditeurs et auditrices qui ont pu écouter cette émission ou ce podcast sur prune.net. On se retrouve donc le mois prochain, le dernier mardi du mois de 13h à 14h sur 92 FM. N'oubliez pas que nous avons aussi des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram à la cabane. Et peut-être que Antonin a des réseaux sociaux aussi qu'il veut partager.
Non, ça y est, merci.
Et puis, on vous souhaite une agréable journée. J'espère que je n'ai rien oublié cette fois. Je pense que c'est bon.
Et bien, bonne journée à tous. À bientôt.
Au revoir.
Vous venez d'écouter l'émission culturelle La Cabane. Retrouvez nos deux acolytes, accompagnés d'un nouvel invité, chaque dernier mardi du mois, de 13h à 14h, sur Prune 92 FM. La cabane, l'émission où l'on parle d'art sans complexe.
C'est toi qui as les clés ?
Non, cette fois, c'est pas moi qui ai les clés.
Ah oui, elles sont là.